Cercavo la grande bellezza, ma non l'ho trovata.
That's funny. That plane's dust and props where there ain't no props.
I want to bring salvation. Father, take me back. Make a feast. Welcome me home. I want to be your son. I want to pay the price.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce sixième numéro de votre émission de cinéma sur Transistor, d'étoiles plein les yeux. Des yeux, en cette période de dur retour à la réalité après la frénésie des fêtes, il n'y en a que quatre, et c'est Mathias qui m'accompagne aujourd'hui, bonjour.
Bonjour Rémi.
Quant à la toile, c'est Mia Madre, le dernier film de Nanni Moretti que nous y avons vu. Il faut bien le présenter ainsi, même si c'est donné une image un petit peu lugubre du film. Mia Madre, c'est d'abord les dernières semaines, puis la mort d'une vieille dame malade et fatiguée. Celle-ci est montrée à travers le regard de ses deux enfants, Margherita, réalisatrice surmenée, et Giovanni, son frère calme et discret, qui prend soin de leur mère mourante, et c'est sur eux que se concentre Moretti, sur leurs discussions, leurs interrogations, leur entourage, leur vie. Mia Madre, c'est la mort d'une mère vue comme un événement de la vie, dans toute sa simplicité, à travers son ancrage dans un quotidien, rien de brutal donc, rien de tragique, du comique même parfois, grâce au second rôle. Pour ce film au réalisme d'une grande humilité, servi par le jeu de Margherita Bay et Nanni Moretti lui-même. Mais j'en dis pas plus, et je te laisse la place, Mathias, pour nous dire un petit peu ce que tu as pensé de ce film.
Alors j'ai bien aimé Mia Madre, mais je dois avouer que j'ai moins aimé que son dernier film, Habemus Papam, que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé, et dont j'étais sorti très, très enthousiasmé par, le réalisateur, Nanni Moretti.
Et Michel Piccoli.
Et Michel Piccoli surtout. Alors j'avais pas vu La Chambre du Fils, qui à ce qui paraît est son film principal, et qui reprenait un peu le même thème que dans Mia Madre, mais là c'était la mort d'un fils vu par les yeux de deux parents, alors que là on est sur la mort d'une mère vue par surtout les yeux de sa fille Margherita, elle-même complètement paumée dans sa vie.
Et elle-même vue par les yeux de son frère, d'une certaine façon.
Oui, enfin là, après, le rôle du frère m'a un peu gêné, parce que du coup, on avait l'impression que c'était un peu le fils parfait, le fils qui était là pour la mère, alors que Margherita, elle est prise dans son travail, les aléas, son tournage, qui va de mal en pis avec un acteur complètement, complètement détestable. Et en même temps, bah, ce frère-là, Mais je sais pas, enfin je trouve qu'il avait pas énormément de consistance, parce que on aurait, enfin moi je m'attendais quand même à une sorte de peut-être de rancœur, de drame familial dedans, et en fait non, parce que c'est quand même, voilà, c'est deux frères et sœurs qui finalement s'aiment beaucoup, et je sais pas, donc ce personnage m'a un peu gêné dans le film. Je sais pas si toi aussi.
Ben non, en fait c'est peut-être exactement ce que t'as pas aimé que j'aime bien, c'est-à-dire le fait justement qu'il n'y ait pas de drame, le fait qu'on prenne cet événement comme un événement de la vie que tout le monde a vécu ou vivra un jour de toute façon, la mort d'une mère, et qu'on n'essaye pas d'en faire quelque chose d'exceptionnel, mais qu'on le montre pas en tant qu'événement isolé comme c'est très souvent fait, mais simplement qu'on décide de le montrer avec tout le quotidien autour. Et donc, avec une forme de simplicité, sans rajouter de drame dans ce qui, de toute façon, est déjà dramatique par lui-même. C'est-à-dire que la fin du film est très triste, parce que,
oui,
évidemment, la mère meurt à la fin,
oui,
on peut vous le dire. C'est absolument pas l'objet du film de savoir ce qui va se passer. Mais c'est pas le fait que ça soit un film qui l'a rendu triste, d'une certaine façon. Et le personnage joué par Nanni Moretti, de ce point de vue-là, est un très très beau personnage, je trouve.
Autre chose, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait plein de fils narratifs dans ce film-là, et qu'on aurait pu raconter beaucoup, beaucoup d'histoires.
Oui.
Et finalement, et bon, je vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a un côté d'inachevé et de trop peu, mais il y a quand même un effet de... Bah voilà, je saurais pas catégoriser le film.
Mais alors... Pour moi, enfin, toujours comme je disais, c'est précisément le fait qu'on ne raconte pas une histoire, mais simplement qu'on montre des choses comme elles sont vécues, qui fait que c'est un écheveau extrêmement complexe et dont plein de fils partent qu'on ne pourra pas suivre. C'est dans cette mesure-là que je le prends moi. Après,
après j'avais lu aussi sur internet et dans certaines interviews de Nanni Moretti que justement il y avait un côté, parce que on l'a pas dit, mais c'est un film assez autobiographique. Ouais. Il l'a écrit juste après la mort de sa propre mère, et justement il y a une sorte de décentrage, Nanni Moretti joue dans ses films assez régulièrement, où il a quand même généralement le premier rôle, et alors là choisir un rôle à côté et de laisser donc la lumière sur le personnage de Margherita, joué, enfin dont la, je l'ai pas dit, mais quand même par la brillante actrice Margherita Bey, qui est vraiment, je l'ai trouvé quand même assez puissante dans le film. Et justement, après, voilà, ça c'est intéressant de voir un film autobiographique, mais sans prendre la grosse tête sur ce film.
Et ça fait écho à cette injonction sur laquelle la réalisatrice Margherita construit tout son cinéma dans le film. Elle demande à ses acteurs de se tenir à côté du personnage qu'ils incarnent. Oui. Personne ne le comprend jamais.
Mais elle ne le comprend pas non plus.
Et elle ne le comprend pas elle-même. Mais il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que Nanni Moretti lui-même accompagne toujours le film et le déroulement du jeu.
Du coup, là ça complexifie quand même encore un peu le film, parce qu'on a quand même une mise en abîme du film, le film dans le film, parce que
oui.
Voilà, faut quand même qu'on en parle de ce tournage, ouais, qui est finalement le moment le plus, à la fois le plus, je sais pas, parce que dans la tête du personnage de Margherita, on se dit que c'est un chaos pas possible, et dans la tête d'un réalisateur, ça doit être complètement ingérable.
Oui, et puis elle est complètement déboussolée par sa mère qui est à l'hôpital, qu'elle a pas le temps de voir autant qu'elle le voudrait, sa fille dont elle découvre qu'elle n'en sait pas grand-chose finalement, puisque même la vieille grand-mère en sait plus sur la petite fille que la mère. Et elle est complètement déboussolée par cet acteur qui débarque dans son film et qui est incapable de tourner correctement sans faire le pitre ou sans rater une réplique.
Oui, c'est un acteur qui est déjà complètement raté à la base, et qui en même temps, la scène où il apparaît pour la première fois, déjà il ne comprend pas que la personne qui vient le chercher à l'aéroport, c'est la réalisatrice du film, et il lui demande quand même de coucher avec lui. Donc voilà, ce personnage quand même qui est complètement imbuvable, mais en même temps... Bon,
c'est un personnage positif malgré tout.
Oui, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que même si les passages sur le film en train de se réaliser peuvent apparaître comme complètement anxiogènes, c'est quand même les passages les plus drôles.
Ils sont pas si anxiogènes que ça, justement.
Bah non, justement, parce que
qu'il y a plein de petits second rôles qui donnent beaucoup de fraîcheur au film. John Turturro, évidemment, dans ce rôle, mais aussi tout cet univers du cinéma qui fait une coupure sur, entre autres, les scènes d'hôpital qui ne sont jamais un environnement très agréable. Y a la fille de Margherita aussi qui donne lieu à quelques scènes plus amusantes. Et finalement, c'est un peu mon idée fixe, mais là aussi, ça montre l'événement dans tout son contexte et tout le contexte n'est pas dramatique. Il y a des vraies scènes de comédie à l'intérieur de ce film et il y a très peu de vraies scènes tragiques. Finalement, Margherita pète les plombs à un ou deux moments. Y a des scènes éventuellement un peu angoissantes quand elle se rend compte qu'il y a une fuite d'eau dans son appartement et qu'elle panique complètement.
Cette scène-là, au départ, je me dis elle rêve, parce que on ne sait jamais sur quel pied danser.
Il y a cette très très belle scène centrale dans le film qui est une scène de rêve, la scène où elle remonte cette longue file d'attente devant un cinéma et tous ces gens qui font la queue, puis elle remonte la queue qui ne se termine jamais. Elle y croise son frère qui lui glisse un ou deux conseils. Elle se croise elle-même 20 ans plus tôt. Alors c'est une très très belle scène et on ne sait pas vraiment quel sens lui attacher.
Parce que du coup, moi je l'ai interprété parce que du coup elle remonte une queue de spectateurs qui vont voir un film, qui d'après ce que j'ai compris vont voir son film à elle. Donc du coup parce qu'elle a quand même l'impression de se faire un peu juger par beaucoup de personnes autour d'elle, tout son entourage. Parce que même si c'est jamais frontal, elle se dit, il a la scène où elle va voir sa mère, où elle lui apporte des gâteaux, mais son frère l'a déjà fait. Donc du coup, elle cache ce qu'elle a apporté de la boulangerie en se disant, non, mais c'est de l'hôpital, c'est pas bon et tout. Donc elle se sent quand même pas mal inférieure aux autres personnages qui l'entourent. Et donc elle tourne un film social, un film sur une grève, un film très, très dur. Et donc du coup... je trouvais ça intéressant dans le sens où il y avait quand même deux pendants. On a le film intime et on a le film social.
Et sur ces deux tableaux, que ce soit le tableau privé, le tableau public, elle sait de moins en moins comment se positionner. Il y a une très très grande remise en question dans ce personnage qu'on ne trouve pas dans le personnage joué par Nanni Moretti, le personnage de Giovanni, qui lui sait ce qu'il doit faire, le fait calmement et posément, mais ce personnage, Margherita, se remet vraiment en question. D'ailleurs, est perpétuellement remise en question avec les autres, même si elle ne s'en rend pas toujours compte.
Oui, elle se remet en question en tant que réalisatrice, en tant que femme dans ses relations amoureuses, en tant que mère, parce que voilà, la relation, en tant que fille, parce que du coup, elle a l'impression d'avoir un peu loupé quelque chose dans sa relation avec sa mère. Enfin, je sais pas, de tout, parce que sa mère est prof de latin. Et il y a une scène où elle essaie de convaincre sa fille que le latin, c'est important, que ça aide. Et quand sa fille lui demande bah, pourquoi, elle commence à essayer, mais elle y arrive pas. Enfin, elle n'arrive pas à défendre le latin, qui est en gros l'héritage un peu de sa mère à elle, qui elle aussi a dû lui apprendre le latin très jeune, et elle avait sûrement de très bonnes raisons pour lui apprendre le latin. Mais voilà, elle est complètement perdue dans différents rôles, et elle n'arrive pas à unifier tout ça.
Et tout ça se termine sur une note étonnamment positive. Le dernier mot du film, prononcé par le visage radieux de la mère, demain.
Bah voilà, parce que la vie continue en fait.
Oui, voilà. La vie continue et c'est un film qui n'est vraiment pas une tragédie. Et alors, il ne tient pas de la comédie non plus, mais beaucoup plus que de la tragédie en soi. C'est vraiment un film très très intime et qui filme plus des gens qu'une histoire.
Voilà, tout à fait.
Cette semaine encore, bien des films à voir. Commençons par Au-delà des montagnes, le nouveau film de Jia Zhangke, où le réalisateur poursuit son portrait de la nouvelle Chine, celle du XXIe siècle, celle qui est en pleine mutation et ne sait pas comment le prendre, celle des gens simples, dépassés par le gigantisme ambiant, à l'image de cette femme qui est courtisée par deux hommes, un mineur et un petit entrepreneur. Elle choisit le deuxième qui s'enrichit, ils ont un enfant, se séparent. Le film raconte leur histoire, l'histoire de leur enfant, et à travers eux, l'histoire de toute une Chine, à travers les époques de 1999 à 2025, ce qui représente une grosse évolution de ce pays, toute cette population, auquel Jia Zhangke s'attache vraiment de très près et depuis très longtemps. On se souvient en particulier de son dernier film très remarqué, A Tot of Sin. Et tu as vu Au-delà des montagnes, Mathias?
Et oui, j'ai vu Au-delà des montagnes. Et alors là, pour le coup, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film. Je dois avouer que j'avais un peu peur, parce que je me suis dit, bon, allez, je vais voir un film de deux heures, un peu contemplatif, et qui plus est chinois. Donc je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Et bien, la bande-annonce, là, pour le coup, je suis pas un très grand fan des bandes-annonces, mais la bande-annonce m'avait vraiment donné envie d'aller voir ce film, notamment pour la musique des Pet Shop Boys, Go West, qui est quand même un fil récurrent dans le film et que j'aime beaucoup.
Un film à voir, donc.
Un film à voir, voilà.
Sur lequel on espère revenir. Il est prévu pour la semaine prochaine, d'accord, si tout se passe bien. Ensuite, Pauline s'arrache, un documentaire bizarre à en voir la bande-annonce, qui filme cette Pauline de 15 ans, la seule de sa fratrie à vivre encore avec ses parents. Entre sa mère, une ancienne reine de la nuit, son père qui se travestit, son quotidien est un peu explosif. Pauline est filmée pendant 2 ans par sa demi-sœur Émilie, c'est un documentaire, et il mélange les archives familiales, les images prises sur le vif. On y découvre une jeune fille pleine de verve, parfois agaçante, mais au charme désopilant. Donc pendant ces 2 années, on filme son passage à l'âge adulte, et ça a l'air très drôle, ça a l'air vivant, ça a l'air d'un très bon documentaire, même si en voyant la bande-annonce, on se demande si ça serait pas de la fiction par hasard. Et on revient sur un film qui est sorti il y a quelques temps maintenant, Marguerite, de Xavier Genoli avec Catherine Fro, qui ressort à l'occasion du festival cinéma Télérama, puisque chaque année, fin janvier, Télérama ressort dans un certain nombre de salles en France, les films qui ont marqué l'année précédente. Il y a donc une quinzaine de films sélectionnés pour cette année pendant la semaine du 20 janvier, je crois. Et donc, à ne pas manquer,
Marguerite.
Marguerite,
bah c'est d'abord Catherine Fro qui... Je vais déclarer ma flamme à Catherine Fro ici ce soir. Et voilà, c'est vraiment une performance d'actrice que j'ai beaucoup appréciée. Voilà, enfin, toujours dans le rôle d'une femme un peu paumée, un peu délaissée, mais tout assez exubérante, mais à la fois exubérante et touchante. Donc voilà, c'était vraiment... Puis une histoire pas si monolithique qu'on pourrait s'attendre. Donc à voir et à revoir.
À voir aussi. Plein de films à voir. Il y en a encore d'autres, mais on ne peut malheureusement pas parler de tout. D'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt sur Transistor. Merci à Mathias pour m'avoir rejoint au studio. Et à bientôt.
À bientôt.